Vous avez entendu déjà tellement de choses. À quoi bon en rajouter? C'était copieux et c'était merveilleux. Merci beaucoup pour les témoignages et pour l'intervention de Farshad aussi tout à l'heure. On a parlé mission au loin. Nickel, je ne vais pas y revenir. Vous avez déjà parlé portes ouvertes, je n'ai même pas besoin d'en rajouter. J'aimerais vous adresser la parole du Seigneur pour aujourd'hui et pour votre communauté, votre église, Lazare. Comment entrer dans la mission de Dieu? Comment partager ce cœur d'amour dont Christine nous a parlé? Comment être un confluent? Comment être au carrefour de celles et ceux qui attendent notre parole? Alors ici en Suisse, on se dit, mon Dieu, les gens ne sont plus très intéressés. Les gens délaissent les églises, nos concitoyens, peut-être nos collaborateurs, ou qui que nous ayons comme prochains proches autour de nous, ne sont plus tellement des gens enclins à venir goûter à la parole de Dieu ici, par exemple, à Lazare. Alors comment les rejoindre? Moi, je crois que le Saint-Esprit n'est pas en reste, mais que nous sommes peut-être en panne. Nous sommes peut-être en panne d'idées, de projets, et nous avons essayé, nous nous sommes refroidis, comme le disait Farshad. Pourtant, Dieu nous donne encore ce cœur. Il veut nourrir cet espoir, et il veut nourrir notre conviction que la mission, ce n'est pas juste au loin, c'est ici aussi. Allons-en parler de repas. Nous avons parlé d'être une entrée. Enfin, c'est Farshad qui le disait dans son témoignage, nous ne sommes que l'entrée. Et pourtant, Dieu tend un plat succulent à celles et ceux qui, en général, le rencontrent. Le salut, ce n'est pas juste désuet, obsolète ou inutile. Ça, c'est la société d'aujourd'hui qui nous le fait croire. Ou peut-être sommes-nous de ceux qui finissent par aussi entendre raison de ce qui vient de l'extérieur, dans une société extrêmement consommatrice de distractions à souhait. À quoi bon penser à Dieu? Le bruit de notre société est tel, le bruit des nouvelles, des news, 19h30, 20h et tout au long du jour, et le bruit de la consommation. Vous êtes tout près de Conforama, tiens. Si Conforama n'évangélisait pas, peut-être que Conforama n'existerait plus. On devrait prendre exemple sur le marketing et le commerce. On pense que les gens vont affluer dans nos églises avec le grand coup du réveil. Bon, mais bien sûr, si Dieu souffle son esprit et que les gens sentent la nécessité de reconnecter au divin, peut-être viendront-ils comme par enchantement ou comme par hasard à Lazare. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se fait. La plupart du temps, il faut un contact. Il faut un contact personnel. Il faut entrer en relation avec quelqu'un, un voisin, un ami, un collègue, son patron si on ose, ou ses subalternes, pourquoi pas. Il faut ouvrir la bouche. Il faut dire quelque chose. Sinon, le message ne passera pas les murs de cette communauté. Et pourtant, Dieu vous envoie comme il m'envoie, il nous envoie dans le monde. Il n'y a pas que les chrétiens persécutés qui savent évangéliser, n'est-ce pas? Et souvent, et c'est là l'émerveillement des voyages avec Portes Ouvertes, notamment, vous pouvez voyager avec d'autres organisations, j'espère que vous aurez aussi la grande surprise de voir Dieu à l'œuvre, et absolument, vous l'aurez, cette surprise, j'en suis persuadé, Dieu est à l'œuvre dans son monde, c'est lui qui l'a créé et il est à l'œuvre. Mais la grande surprise d'un voyage parmi les persécutés, c'est de découvrir leur zèle et leur foi conquérante. Ils savent qu'ils sont une minorité. Ils savent qu'ils sont persécutés, non admis, qu'il y a des interdits. Ils savent qu'ils ne jouent pas dans les règles. Et ils osent pourtant braver les interdits, repousser les limites des contraintes étatiques ou sociétales et aller sur le terrain. J'en brille parce que j'ai un quart d'heure, alors peut-être que je ne vais pas du tout suivre ce que j'avais prévu, et puis il fallait trouver mon coup d'envoi parmi tout ce qui vous a été dit déjà ce matin. Mais le coup d'envoi du Saint-Esprit ce matin dans ma cuisine alors que je priais, c'était le coup de sifflet du coach. Enfin, c'est l'arbitre principal qui appelle Lazare sur le terrain. Voyez les grands stades où on attend les joueurs. Vous avez le maillot, vous avez les chaussures, elles sont pompées les chaussures. Tous les dimanches, on vous les cire les chaussures. Vous êtes équipés, vous êtes à point nommé, vous êtes prêts. Et pourtant, faute de vouloir aller taper dans la balle, vous restez dans le vestiaire. Je dis vous, je me mets dans le tas, quoique je pense évangéliser à ma manière et dans bien des cercles d'influence aujourd'hui dans mon village et ma région. Je suis actif et je suis sûr que vous l'êtes aussi à bien des égards. Donc ne nous jugeons pas, ce n'est pas un miroir d'accusation que je vous tends. C'est juste ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin. Si c'est lui, je vous le soumets. Vous prenez pas. Mais le Saint-Esprit dit à Lazare, ne reste pas au fond de ton caveau, de ta cave, de ton vestiaire, pour reprendre l'image du football. La porte est ouverte. Tiens, voilà, portes ouvertes parmi nous. La porte est ouverte. Va jouer sur le terrain. C'est là que Dieu nous attend. C'est bien le vestiaire, mais on le connaît par cœur, le vestiaire. Vous connaissez les prédications du coach. Là, vous en avez deux ou trois. Il y a assez. Et ils seront là dimanche après dimanche pour stimuler, pour continuer à encourager. C'est leur ministère. Mais le nôtre, avec le leur, le nôtre, tous ensemble, c'est d'aller taper la balle. Il n'y a pas de but sinon. On ne va pas marquer de goal. Hein. Puis à force de rester au vestiaire, on va boire de la bière, prendre le bidon, et puis perdre le muscle, et on sera cuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Zéro. On sera zéro sur le terrain. Et manquer d'ambition, c'est finalement rentrer dans une grande forme de léthargie qui nous pousse à dépérir et à ne plus goûter à la joie dont parlait Jérémie dans son témoignage, à la joie de participer au grand jeu de l'évangélisation. La mission, c'est pour nous. Alors, il faut quitter notre mentalité de persécuter, là. Hein. Parce que peut-être Portes Ouvertes vous bassine aussi avec les chrétiens sont en danger, les chrétiens sont persécutés, au secours, à moi la peur, oui, c'est dangereux de partir. Oui et non, hein. Ça dépend de la mesure de ta foi et surtout de ton écoute de la voix du Saint-Esprit. S'il te dit « go », s'il te dit « va », s'il te dit « fais », pourquoi désobéir ? Va, tu es dans le cœur de sa volonté. Frère André disait « il n'y a pas plus grande place de sécurité que d'être dans le cœur de la volonté de Dieu ». Alors le Saint-Esprit ce matin nous dit « va, sors de Lazare hein ». Lazare, sors ! Vous connaissez, là, ça me l'a fait facile. Hein. Sors ! Hein, je n'ai pas cherché loin, mais sors, va, parce que Dieu t'attend sur le terrain de foot. Et tu sais, quand le grand arbitre, là, qui te rappelle au terrain, tu es au fond du vestiaire, il t'appelle, il regarde le score, là, c'est 0-0. Mais je crois qu'il regarde aussi l'heure, et c'est moins une. Il y a urgence, quand même. Ce monde dépérit, il y a des guerres qui éclatent un peu partout sur la planète, tu t'en rassasies. Peut-être que tu ne regardes plus l'écran tellement, tu en as marre comme moi, hein, on est perdu derrière le 20h. Bref. Le monde court à sa perte, il est en panne sèche et nous sommes à la hauteur de ce que le monde représente, c'est-à-dire en panne aussi, en panne de ferveur, en panne de volonté. Nous sommes devenus des tièdes, nous sommes dans une tiédeur léthargique qui est coupable et que le Seigneur aimerait réveiller. On a dit « éveille-toi mon âme ». Mais moi je crois que le Seigneur nous appelle à cet éveil, ce retour à plus de ferveur. Alors, le titre du message, c'était « Du nez ». Du nez pour évangéliser. Vous êtes peut-être de ceux qui ont vu un film par le passé qui s'intitule « Les parfums » avec Emmanuel De Vos. Un très beau film que je vous recommande. Emmanuel De Vos joue le jeu d'une grande dame qui crée du parfum. Elle a un nez exceptionnel. Il n'y a pas que chez les viticulteurs qu'on cherche à avoir un nez, ou chez les œnologues, dans la parfumerie aussi, il faut un nez. Et cette femme perd son nez. Elle perd sa capacité olfactive, elle n'a plus l'odorat, elle est perdue. Elle n'a plus le nez. Plus nez, ça veut dire l'hôpital. Et là, un grand professeur italien vient lui apprendre comment à nouveau respirer l'odeur qui va la mettre en appétit de créer à nouveau les parfums les plus exquis. Moi, je crois que Dieu, notre grand professeur, aimerait venir au chevet de nos églises pour nous redonner goût et envie de participer à sa grande mission. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si nous sommes là, c'est pour aller. Et j'étais étonné encore cette semaine d'une visite de témoins de Jéhovah. Ce n'est pas vraiment la joie qui les anime. Ils viennent avec une parole d'espérance, c'est presque déprimant. Hein, il n'y a pas le Saint-Esprit, là. Quand on renie le Christ, il n'est pas Dieu, il n'est pas divin. C'est juste un humain assez parfait pour être mort en martyr et accorder un salut. On se demande lequel, d'ailleurs. Bref, leur théologie est bancale, on le sait. Donc, il n'y a pas cette respiration de l'Esprit, mais il y a au moins, alors est-ce par obligation ? Oui, ça l'est, en effet. Il y a au moins cette outrecuidance de celles et ceux qui, allent, qui ose aller aux portes. Je ne dis pas qu'il faille imiter les témoins de Jéhovah, mais soyons à l'écoute de celui qui veut nous mettre la puce à l'oreille, qui veut nous donner une indication, une inspiration, des idées créatrices pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont besoin d'une parole. Alors d'abord, je l'ai dit, il faut être en appétit de Dieu. Et ça, c'est ton chemin, ça c'est le mien, c'est ton travail au jour le jour dans ta semaine. Reste en appétit de Dieu, mets-toi à table avec lui, écoute le Saint-Esprit, reste vivant dans ta foi. Et je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais tricher avec le PowerPoint et tant pis. J'aimerais vous donner un exemple aussi d'une église en mission dans une ville du Moyen-Orient, là où il est interdit d'aller à la rencontre des gens pour leur parler de Jésus. Vous savez ce qu'ils se sont aventurés à faire dans une grande capitale du Moyen-Orient, pendant le jeûne musulman, le soir au tomber du jour, ils vont dans les carrefours, là où les voitures s'embouteillent, ils frappent aux portes et tendent un sachet, le sachet du déjeuner. Et il y a une boisson, un sandwich et un verset biblique avec l'adresse de l'église. Ou l'adresse de la mission, parce que c'était une mission qui le faisait avec une église en partenaire. Incroyable, quand j'ai entendu leur projet missionnaire, et ce n'est pas des projets dans le vague, c'était vraiment une action qu'ils entreprenaient régulièrement d'année en année dans ces périodes, je dis c'était incroyable. Alors, pourquoi sommes-nous si timorés, timides? Pourquoi avons-nous perdu la flamme? Je pense qu'on habite dans un climat en Occident où la foi n'est plus nécessaire, où Dieu a quitté l'estrade, on n'en parle pas. Bien sûr que l'islam ou les pays musulmans ont au moins cet avantage, c'est que Dieu est au cœur de tous les sujets. Pas difficile de parler de Dieu avec un musulman. Ici, on n'ose plus, on ne sait pas comment aborder la question. Et pourtant, je pense que le Saint-Esprit n'est pas à court d'idées. Et vous avez le monde à vos portes ici à Lazare, n'est-ce pas? Je disais Conforama le samedi matin, je pense que les voitures aussi s'embouteillent là sur le giratoire. Il y a tellement de choses à faire avec un peu d'audace et surtout une bonne dose d'inspiration. Alors, où est notre nez? Où est notre nez? L'invitation, je vais quand même laisser un texte biblique puisqu'il faut terminer. Et c'est important de respecter l'horaire. Merci déjà pour la possibilité d'avoir écouté tous ces témoignages de portes ouvertes, c'était très bon. Ésaïe 55, c'est le grand appel du salut adressé à toute l'humanité. C'est le Deutéro-Ésaïe, c'est-à-dire le deuxième livre du prophète Ésaïe qui commence au chapitre 40. Je n'entre pas dans les détails. Ici, on est devant l'appel, le tableau universel du salut qui s'adresse à tous les humains déjà dans l'Ancienne Alliance. Et que nous dit le prophète? Il nous parle de quelque chose de très concret. Vous tous qui avez soif, venez chercher l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Je n'ai pas le temps de lire beaucoup plus, mais les questions de celui avec qui Dieu a fait alliance, David, sont loin, mais qui est repris dans Actes 13, 34 au sujet du Christ, le ressuscité, qui entre dans son règne royal, le Messie, fait maître et seigneur, et les bénédictions promises à David qui nous sont acquises. Et en lui, dans le Christ, fait seigneur, il y a ces promesses de bénédiction et cet appel à être témoin de cette faveur que Dieu nous adresse, comme il fait de David et d'Israël un témoin pour les peuples sous l'Ancienne Alliance, il le fait de surcroît pour nous qui sommes l'Israël de Dieu dans le Christ. Nous sommes appelés aussi à cet adage ici, verset 5 d'Ésaïe 55. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connais pas, va à courir vers toi, c'est à cause de moi, l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël qui te couvre de gloire. L'appel, il résonne, l'appel à la mission, il résonne de tout temps pour les héros qui sont les serviteurs de Dieu, ses prophètes, et nous en sommes. S'il fallait vous en convaincre, nous serions de retour à Actes 2, pour dire combien l'esprit de prophétie qui est distribué largement avec abondance sur toutes les générations à la Pentecôte est un esprit qui met en éveil l'Église. Elle a du nez, cette Église, parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Nous avons chanté les louanges de Dieu dans l'Esprit tout à l'heure, nous étions visités. Dieu aimerait te redonner du nez. Et il faut que tu te mettes en appétit du Seigneur pour pouvoir dire les merveilles de ton Dieu et inviter d'autres à te suivre dans cette aventure culinaire. Alors Christian, tout à l'heure, me disait, tiens, l'évangélisation par les beignets, c'est une nouvelle possibilité. Je dis, oui, amen. L'aventure commence à table. Et Jésus a invité tant et tant de ces gens qu'il fréquentait à passer du temps à table. Il a mangé avec les gens qui étaient pas très recommandables pour autant, mais il a aussi fréquenté les pharisiens, les gens extrêmement notables de sa société. Chacun a été accueilli à la table du Seigneur pour entendre sa bonne nouvelle, entendre le message du royaume. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre du temps avec ton voisin ? D'arrêter boire un café dans une société où on court et les gens s'isolent. Vous voyez, dans le train maintenant, il y a l'écran, mais maintenant il y a les casques. Et les casques sans bruit, hein, tu peux faire silence avec ton casque. Il est possible de créer ta propre bulle. Il faut aller percer ces bulles, il faut aller rencontrer les gens. Commençons par nos voisins, commençons par nos amis proches, ces gens avec qui on est déjà en lien. Arrêtons-nous, écoutons-les à table, invitons-les à partager un repas, et pourquoi pas. Parce qu'autour de la table, les langues se délient. Quand tu leur offres un bon verre de vin, un petit plat sympa, ça va tout seul. On commence à parler en vérité. On crée de l'amitié. Là encore, on le sait dans le commerce. Hein. Un client qu'on veut mettre en poche, on va manger avec lui. On prend du temps avec lui. On va lui cirer les pompes. Alors nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Hein. On ne va pas commencer à flatter les gens inutilement. Mais si on avait de l'amour et de l'amitié au point de les inviter, de les honorer, passer un peu de temps, c'est à la portée de toutes et de tous. Tu manges tous les midis, tu manges tous les soirs. Pourquoi pas partager ta table ? Accueillir, aimer, sans condition. Écouter ton prochain, répondre à son besoin. Est-ce la prière ? Est-ce la prédication de l'Évangile ? Ou est-ce simplement déjà du temps passé avec lui, de l'amitié, créer la relation ? Et te dépréoccuper un peu de tes besoins pour répondre à ceux de ton prochain. J'y crois de tout mon cœur et je pourrais en témoigner. Voilà encore un texte avec lequel je vous laisse parce qu'il est tard. Acte 2. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est répandu sur l'Église naissante, il donne à chacun de parler dans des langues différentes. Quelle est ta langue ? On a dit quelle est ta mission, Christine a dit, mais quelle est ta mission ? Écoute le Saint-Esprit. Si tu l'as reçu, que tu as chanté en langue ce matin, que tu as rencontré sa présence, tu sais que tu as lui, tu sais qu'il est ton maître et ton seigneur, tu n'as qu'un désir ici-bas sur la terre, ce n'est pas d'enterrer Lazare ou de mettre ton talent sous la terre, de dire non, je ne parlerai pas, je ne veux pas ouvrir la bouche, je me dépréoccupe de ce qui se passe autour de moi, je ne veux pas parler à mon voisin, je ne veux pas. Non, on sait bien que ce n'est pas le cas. Ton cœur profond réclame avec le Saint-Esprit une autre réalité et tu peux la créer parce qu'avec lui, il y a matière à entrer dans le business de royaume, à savoir gagner des frères et sœurs à l'Évangile, gagner tes voisins au cœur de Dieu. C'est notre mandat, c'est notre mission. Alors, chacun doit trouver son chemin. Ils ont parlé dans des langues différentes. Chacun s'est exprimé comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Je m'arrête ici. Quel est ton langage ? D'abord, quel est ton cœur ? Es-tu en appétit de Dieu ? Et si tu en as appétit de Dieu, as-tu à cœur de faire goûter le petit plat qui mijote à ton voisin ? As-tu à cœur de lui tendre la cuillère pour qu'il hume le bienfait de ce que tu es en train de manger à table ? Toi, tu l'as tous les jours. Pourquoi tu ne partages pas ce fumet ? Pourquoi tu ne tends pas la cuillère ? Pourquoi tu ne l'invites pas à la cuisine pour goûter à la casserole ? Pour lui tendre une assiette, même que tu peux même mettre la table et faire quelque chose de beau et de grand. C'est possible. C'est même techniquement, complètement abordable, sans grand moyen, sans grande façon. Il faut juste aimer, tendre ce fumet, tendre cette assiette et goûter, toi et lui, elle et toi, à ce plat que Dieu a préparé. c'est sa bonne nouvelle. Partage la bonne nouvelle autour de la table. Partage la bonne nouvelle autour d'un café. Prends le temps de rencontrer ton voisin, ton ami de longue date. Avons-nous encore du temps pour des voisins, des collègues, des prochains non-chrétiens? Où sont-ils? Peut-être les avons-nous même perdus de vue. Peut-être n'avons-nous pas le temps ni le cœur à ouvrir ces relations. Il faut que le Seigneur vienne nous éveiller. Et plus que cela, il faut que le Seigneur nous rappelle à son projet. Sinon, nos églises évangéliques, aussi grandes soient-elles, dans 10 ou 15 ans, elles seront à moitié vides. C'est ce que prévoit la sociologie des religions, c'est ce que prévoient les grands sociologues aujourd'hui. Même les évangéliques manquent de pasteurs pour demain. Même les gens, même chez nous, refusent de venir goûter à la soupe, au mets excellent que vos pasteurs préparent semaine après semaine. Il faut que nous nous repentions de cet état de fait et que nous changions la donne. Et si nous n'allons pas à la rencontre de notre prochain, le réveil ne viendra pas tout seul. Nous prions, à Dieu pour notre société qui se perd. Il faut que nous crions à Dieu pour nos voisins. Il faut que nous prions et que nous demandions à Dieu le nez. Donne-moi du nez, donne-moi du flair. Donne-moi à nouveau cette aspiration à goûter avec toi à la joie d'évangéliser. Parce que la moisson est abondante, hein, vous savez, on dit ça ne se passe pas. Jésus n'a pas parlé de cette manière. Il a dit la moisson est abondante, mais il manque des ouvriers. Prions le Père que Dieu nous envoie dans la moisson, n'est-ce pas ? Nous allons prier. Je m'arrête ici, nous allons prier. Ah Seigneur, ce n'est pas une prédication comme elle était tout à fait prévue. Mais nous avons goûté à tellement de bonnes choses ce matin. Seigneur, moi je prie que tu renverses nos tables, les tables de notre manière de faire, les tables de ce que nous avons cru juste et bon de faire entre nous. On est bien dans l'entre-soi de nos églises. Et c'est bon que nous mangions ensemble, c'est bon que nous partagions ensemble, c'est bon que nous nous retrouvions ensemble. Mais Seigneur, au secours, le monde se perd autour de nous et nous n'en avons cure. On s'en moque, on a perdu l'appétit d'annoncer la bonne nouvelle. Pardonne-nous, Seigneur. On ne veut pas se flageller, se culpabiliser. On dit juste, Seigneur, pardonne-nous de grâce, viens nous chercher. Viens renverser nos barrières, Seigneur. Si l'Église persécutée est capable de projets d'évangélisation, Seigneur, et nous, quelle excuse avons-nous? Notre paresse, nos lauriers, nos... Seigneur, on n'a pas d'excuse devant toi, Seigneur. Alors humblement, nous te demandons, Seigneur, fais grâce, pardonne-nous. Et voudrais-tu, Seigneur, nous réveiller? Voudrais-tu, Seigneur, éveiller notre âme, nous redonner du nez, de l'appétit pour l'Évangile? Trouver moyen de prier pour quelqu'un, aller à la rencontre de celles et ceux qui attendent notre visite, qui attendent un peu d'amitié, qui attendent peut-être l'occasion de nous rencontrer. Pardon pour notre égoïsme et nos peurs, nos craintes. On redoute des choses qu'on n'a pas à redouter. Nous voulons marcher dans la confiance, dans la liberté et annoncer l'Évangile avec appétit. Au nom de Jésus. Amen.